Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir aux avatars post-mortem en compagnie d'une juriste et d'une sémiologue. Continuer de parler et d'interagir avec l'un de ses proches décédés aurait paru il y a encore quelques années complètement farfelu, voire inquiétant sur l'état mental de la personne qui y aurait cru. Eh bien, le numérique prétend rendre ce rêve réalisable grâce à des avatars numériques animés en 3D et dont l'effet de présence est d'ailleurs accru avec les techniques immersives. Des agents conversationnels ne se contentent pas d'imiter la voix de la personne défunte, mais sont capables désormais, grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, d'analyser les données laissées par le défunt et à partir de là, de créer des discussions, des attitudes, des apparences, des émotions, des comportements nouveaux, comme si la personne existait encore. Alors, de telles innovations nous conduisent au cœur des promesses du numérique, à savoir à sa faculté de création quasi prométhéenne d'une part et d'autre part à sa prétention à vaincre la mort, à l'immortalité, à l'éternité. Mais en s'attaquant à de tels sujets, le numérique se confronte également à ses propres limites qui sont celles du corps parlant d'un côté, de la vie de l'autre. Sa promesse prométhéenne pourrait avoir l'effet contraire et plutôt que de garantir ses performances, de dévoiler la part d'illusion sur laquelle repose le projet numérique tout entier. Alors, comment le droit appréhende-t-il la réalité virtuelle de personnes décédées ? Est-ce qu'il doit accorder une protection à des bribes de personnalité, voire reconnaître, comme le recommandent certains, une personnalité résiduelle compassionnelle ? C'est quelques questions parmi tant d'autres que Esprit de Justice va tenter de construire ce soir en compagnie de Fanny Georges, qui est sémiologue, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Sorbonne Nouvelle, qui est spécialisée dans les identités numériques, les avatars, la représentation de soi, qui est l'auteur de nombreux articles et notamment d'un article intitulé « Éternité numérique », fait partie d'un ouvrage intitulé « Immatérialité de la mort » dans la collection « Les essentiels de Hermès ». Et pour en débattre avec elle, Judith Rochefeld, qui est professeure de droit à l'Université de Paris 1, appartient à l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, à qui l'on doit de nombreux ouvrages, notamment sur les communs, mais pour le sujet qui nous intéresse ce soir, d'un article intitulé « Les avatars d'éternité vers de nouvelles personnes résiduelles compassionnelles ».
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à toutes les deux. Et ma première question, qui est une question d'information, Fanny Georges, j'ai parlé des avatars post-mortem, mais ça pose la question des avatars et ça pose la question de tout ce qui se passe dans le numérique à propos de la mort.
Oui, tout à fait. Et en effet, les usages des technologies numériques nous invitent à nous présenter tout au long de la vie. Aujourd'hui, la plupart des personnes ont des comptes dans les réseaux sociaux numériques qui capitalisent un grand nombre d'informations depuis des années. Et effectivement, ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que après le décès des usagers, ces formes de représentation de soi, de la personne, continuent de représenter les personnes après leur décès. Et en fait, les usagers vont produire des commentaires, annoncer la mort, oui. Également exprimer des souvenirs sur ces pages.
Sauf que on maîtrise plus l'image de soi sur Internet quand on est vivant que quand on est mort, Fanny Georges.
Oui, tout à fait. Et à ce titre, effectivement, ce qu'on observe après le décès, c'est que l'image du défunt va faire l'objet d'une négociation entre les différents acteurs de la communication numérique, entre les très proches, la famille, les amis, également les personnalités, enfin les personnes de l'entourage qui connaissaient moins la personne, mais tout ce petit monde en fait va s'organiser autour du profil du défunt, également créer des pages mémoriales et l'image du défunt va se transformer au cours de ce processus pour correspondre à une image qui correspond davantage aux vivants qui restent.
Oui, c'est ça. Et alors vous dites que les réseaux réseaux sociaux sont plutôt un mécanisme de dépossession de l'image de soi, Fanny Georges. Là, ça s'intensifie, on pourrait dire, après la mort.
Tout à fait, notamment en raison de l'autonomie prise par les avatars numériques que vous évoquiez en introduction, puisque effectivement le principe de ces avatars numériques est qu'à partir des données saisies pendant la vie des utilisateurs, eh bien l'algorithme va interpréter ces données et simuler un comportement correspondant à celui du vivant supposé. Donc ce comportement va susciter des impressions d'inquiétante étrangeté, de familiarité inquiétante, mais également donc de nouvelles relations effectivement à nos individualités post-mortem qui suscitent énormément de questions.
Alors,
pour
oui,
le droit.
Énormément de questions pour le droit, Judith Rochefeld, parce que pour le droit, la mort, c'est la cessation de la vie, c'est la cessation de la personnalité juridique, point barre, j'allais dire.
Oui, oui, point barre normalement, mais c'est vrai qu'avec ces avatars, alors il n'y a pas que des avatars, on peut peut-être distinguer les manifestations, on a effectivement ces univers immersifs où des avatars de personnes mortes peuvent être recréés, on
continuer.
A l'exemple continué, parce que ça ne prétend pas être une imitation, ça prétend être une continuation avec des nouvelles discussions, avec des interprétations de ce que pourrait faire la personne. Un exemple qui a été vraiment très très débattu et très diffusé, c'est celui d'une mère coréenne qui, en 2020, dans un univers immersif, avec des lunettes en réalité virtuelle, retrouve sa fille de 7 ans qui était morte d'une maladie dit quelques années avant, et à partir des données,
converse avec elle,
la petite fille lui demandant si elle va bien, si elle pense à elle, et la mère en pleurs devant toute la Corée du Sud, répondant qu'elle pense à elle tous les jours, la touchant ou essayant de la toucher avec des gants à sensation. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, la manifestation la plus aboutie en termes de recréation ou de présence, mais on a aussi du texte.
On va s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même extraordinaire. D'abord, les gants, qu'est-ce que c'est que vous avez parlé, les gants immersifs?
Oui, elle porte non seulement un casque de réalité virtuelle, qui la plonge dans cet univers immersif où elle retrouve cette petite fille qui a été... quel est le terme prolongé, mise en espace pour discuter avec elle. Et elle a aussi sur les mains des gants pour essayer de toucher l'avatar de l'enfant et d'avoir un contact physique avec un avatar.
Judith Rochefeld, vous n'êtes pas psychologue, mais ça ne fait pas du bien, ça?
Alors, évidemment, il y a beaucoup
Ça réconforte sur le moment, mais...
Ce n'est pas effectivement mon domaine de compétence, mais il y a beaucoup d'interrogations sur les interactions humain-machine, humain-avatar que ça peut produire, sur le deuil pathologique. On a en plus l'autre exemple très typique qui est très médiatisé également, qui était un deuil pathologique d'un Joshua qui avait mis 8 ans... pour se rendre compte qu'il n'arrivait pas à oublier Jessica, sa fiancée, et qui va converser avec une intelligence artificielle, une création par intelligence artificielle à partir des données de leurs échanges pendant la vie de Jessica, et qui va converser très très longtemps avec, en texte, Jessica qui lui répondait. Donc là, on avait un deuil... Je ne sais pas s'il faut l'appeler pathologique,
impossible.
Ça n'est pas de mon ressort, mais 8 ans après, il se lance dans cette aventure qui est de converser par texte avec sa fiancée. De fait, ça pose des questions à la fois éthiques et juridiques.
Oui, alors on va revenir sur les questions juridiques, bien sûr. Fanny Georges, vous êtes c'est biologue, je le rappelle, et donc vous n'êtes pas non plus psychologue, et on ne va pas vous demander de parler du deuil pathologique. Il n'empêche que ça pose quand même beaucoup de questions, parce que, et vous le dites très bien d'ailleurs, vous travaillez depuis longtemps sur les avatars. Là, on parle d'avatar post-mortem, et on voit d'ailleurs que ça pourrait introduire une confusion. Il ne s'agit pas vraiment d'un avatar, Fanny Georges.
Alors, il ne s'agit pas forcément d'un avatar, étant donné que les personnes se sont acculturées à ces formes de représentation en 3D depuis maintenant une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, ces représentations figurées sont presque naturellement associées à des représentations symboliques de personnes.
Sur un mode de socialité qu'elles connaissent très bien, parce qu'elles ont grandi là-dedans.
Et, exactement. Donc effectivement, ces projets de métavers que vous décrivez, Judith, dans lesquels on peut interagir tactilement avec ces représentations, vont effectivement permettre de franchir un seuil encore d'acculturation en présentant en fait vraiment des simulations de ces formes d'espace d'interaction encore mais plus saisissantes.
D'espace qui n'en sont pas précisément, ces illusions d'espace, cette possibilité de communication sans espace précisément.
Alors du point de vue de la sémiologie, effectivement, puisque en fait on va considérer qu'un espace en 3D, dès lors qu'il permet une expérience spatiale, va provoquer dans l'esprit, dans l'interprétation du sujet, en fait, une expérience tout à fait similaire au réel. Donc effectivement, d'un point de vue matérialiste, on pourrait dire que ces deux espaces sont a priori complètement différents, mais du point de vue de la sémiologie, du point de vue de l'interprétation, cette différence est beaucoup plus confuse. Et ces projets d'immortalité numérique, puisqu'il s'agit bien d'immortalité numérique dont on parle, selon les propositions de Ray Kurzweil et d'autres transhumanistes partisans du téléchargement de la conscience sur les ordinateurs, proposent des dispositifs, en fait, de plus en plus de projets qui présentent cette forme d'immortalité numérique comme une réalité concrète.
Alors le droit, Judith Rochefeld, c'est le retour au réel. Et c'est notamment le retour au conflit, souvent. On crée du droit, alors on peut le créer comme la loi numérique, mais on y reviendra. Mais c'est aussi quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui vont chercher un arbitre justement dans le droit ou devant le juge.
Oui, tout à fait. Alors là, on a une phase de réflexion, il faut, à mon avis, la mener assez rapidement, parce que les pratiques et les acteurs, les brevets sont là, et on a tout un univers économique d'Aztec qui sont des start-up ou de grandes entreprises qui se lancent sur ce secteur.
Comme les deadbots, par exemple.
Voilà, qui mettent en place des agents conversationnels qui sont capables de vous répondre. Donc il faut vraiment que les juristes s'emparent de ce sujet, parce que en fait, pour l'instant, on est en face non pas complètement d'un vide, mais d'un manque de réponses, et il faut les bâtir, parce que le RGPD, le fameux Règlement Général de Protection des Données, comme on parle quand même d'une construction qui se fonde sur les données à caractère personnel des vivants pour après leur mort, est lacunaire sur ce point. Il n'a pas prévu, ça n'était pas sa vocation, de régime, de règles juridiques pour les données des morts, des personnes mortes.
Vous venez de dire quelque chose d'important, je voudrais le souligner, parce que dans ce rapport homme-machine dont parle Fanny Georges, s'introduit la technique, s'introduit aussi le commerce. S'introduit aussi des intérêts commerciaux massif, extrêmement important, Judith Rochefeld.
Absolument. Là, on a un travail sur une nouvelle dimension techno-sociale de la mort.
C'est ça.
Cette prolongation, cette velléité de prolongation des personnes que ne connaissait pas encore le droit.
Et qui est extrêmement attractif d'un point de vue commercial, bien
absolument,
sûr.
Absolument. Il y a des brevets qui sont déposés. Et par ailleurs, on a des risques. Alors, vous avez mentionné les deuils pathologiques, bien sûr, mais on a des risques aussi de promesses qui ne seront pas tenues parce que poursuivre une interaction avec une personne qui est morte à partir de ses données personnelles, c'est poursuivre une interaction sur une base qui peut être biaisée, qui en fait ne prend en compte que ce qui est calculable de la personne, ce qui a été mis en données de la personne,
c'est-à-dire quantify self.
Voilà, pas l'ensemble de la personne. Ça peut introduire des biais, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique de construction par les algorithmes de réponse, mais ça peut entraîner des biais qui feront que les personnes vivantes ne reconnaîtront plus leur mort, par exemple, ou que ce sera un réductionnisme numérique important. Voilà, donc le droit doit, à mon sens, s'emparer de cette question. Et il y a plusieurs directions à sa disposition.
C'est ça. On va y revenir, mais une question simple. Est-ce que le RGPD s'applique aussi aux morts ?
Non, non, il avait prévu de ne s'appliquer que aux personnes vivantes. En revanche, la loi française a une particularité tout à fait intéressante en Europe, puisqu'elle a organisé une forme de succession numérique. Alors, succession, ce n'est pas un très bon terme, parce qu'on ne parle pas de patrimoine. Là, en l'occurrence, on parle d'une prolongation de la personnalité ou de velléité de prolongation de la personnalité. Et la loi française est une des rares lois à avoir tenté de prolonger. Alors, elle n'avait pas du tout prévu cette hypothèse. Ça n'était pas pour les hypothèses d'avatar post-mortem. C'était plutôt pour les photos, pour tous les messages de réseaux sociaux. Mais elle a quelques bribes.
Alors, on va revenir sur ce que dit
sur cette question.
C'est ça, ce que dit la loi française. Je précise pour nos auditeurs que le RGPD, c'est le fameux règlement européen qui protège les données personnelles. Mais avant d'arriver à cette organisation, je me retourne vers vous, Fanny Georges, parce que vous détaillez de manière très intéressante comment le rapport à la mort, il peut être envisagé de trois manières. C'est le mort, la fin absolue, l'altérité absolue, pourrait-on dire, ou c'est la mort comme relationnelle, ou c'est la mort à la première personne, où on continue en quelque sorte de devoir maîtriser ce qui se passera.
Effectivement, l'expérience de converser ou bien d'être confronté en fait à l'expression du décès, enfin l'annonce du décès d'un proche sur Internet, fait entrer la mort dans le monde des gratifications immédiates qu'on vient d'évoquer.
Et que vous appelez aussi un monde un peu régressif aussi. Hein.
Oui, tout à fait, parce que c'est effectivement un peu la mouche dans les vanité, enfin ce rappel de « tu vas mourir » et d'autant plus que c'est associé à l'image d'une personne dont qu'on ne peut pas supprimer de cette manière. Et en fait, cette expérience de la rencontre avec un défunt dans ses réseaux sociaux numériques va rendre cette confrontation à la mort régulière à travers les profils des réseaux sociaux numériques et puis les publications des autres personnes qui expriment leur décès, leurs souvenirs. Et finalement, dans cette configuration, le sujet va être de plus en plus exposé à la présence de la mort si effectivement des moyens de réguler cette présence ne sont pas mis en place.
Présence de la mort qui est bien sûr sur les réseaux sociaux, mais qui y est de manière désordonnée, qui coexiste avec d'autres formes d'expression parfois incohérente, quoi, qui ne correspond pas avec la gravité du sujet de la mort.
Oui, c'est la raison pour laquelle ces formes de dommages aux défunts sont parfois mal comprises, notamment par les proches qui n'utilisent pas régulièrement les réseaux sociaux numériques. Et à ce titre, c'est vrai que, par exemple, on va prendre l'exemple des funeral selfies, qui donc sont ces selfies.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un funeral selfie ?
Ces selfies pris lors des funérailles des défunts, qui ont été une pratique très controversée dans la presse. Mm-hmm. Pour certains, donc pour les plus jeune, effectivement, prendre un selfie, c'est aussi exprimer son émotion. Donc c'est une forme d'expression de l'émotion qui peut être très grave, mais pour d'autres, en fait, qui n'ont pas cette habitude, eh bien, ça va être une expression du narcissisme, par exemple.
Ou enfin... Attendez, je ne comprends pas bien. Selfie, c'est-à-dire qu'on se prend en photo à côté du défunt.
À côté de la stèle, pendant les funérailles. Voilà.
C'est ça. Pour en fait exprimer par l'image ce deuil, cette tristesse.
Sa présence, ses condoléances, très exactement. Mais ça peut être considéré comme effectivement l'expression d'une nonchalance également. Alors que, mais c'est en cela que ces objets.
C'est très intéressant. Ça veut dire cette incohérence, parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps non plus sur les réseaux sociaux. Et donc le temps qui est une succession de moments et qui doit être enchaîné, là, elle coexiste sans enchaînement précisément, le côté joyeux, ludique, et puis la gravité de la mort.
Oui, tout à fait. Et effectivement, on perd, en consultant a posteriori des productions en ligne, effectivement, on perd la connectivité au moment de l'expérience de cet événement.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de s'interroger ce soir sur les avatars post-mortem, leur réalité, leur statut juridique, en compagnie de Judith Orchevel, de professeur de droit, et de Fanny Georges, sémiologue, et qui a choisi de nous faire entendre ce morceau de Outreau par M83. Un mot, Fanny Georges, là-dessus?
Oui, tout à fait. Je trouvais que ce morceau exprimait particulièrement bien la subjectivité de l'expression de soi dans les réseaux sociaux numérique, dans des technologies numériques en général, le fait d'être le roi de son propre monde et de s'exprimer, d'exprimer sa créativité et enfin de ses émotions d'une manière qui correspond simplement à ses propres valeurs centrées sur soi, ça exprime bien ce problème de divergence d'interprétation qu'on vient d'évoquer et également les modalités de transgression du deuil qui, sur lesquels peuvent diverger les regards.
Alors, c'est ça, transgression. Alors, quand on prononce le mot transgression, le juriste que nous sommes, Judith Orchevel, pense immédiatement punition, réaction du droit. Et alors, le droit n'est pas complètement silencieux sur toutes ces questions.
Il n'est pas complètement silencieux, mais je dirais que sa réflexion n'est pas complètement aboutie non plus.
Oui, bah vous y contribuez, parce que c'est précisément un thème de recherche sur lequel vous essayez de structurer, Judith Orchevel, ce débat.
Oui, absolument. Bon, la première, effectivement, la première direction à laquelle on pourrait penser, pour des raisons soit éthiques, soit psychologiques ou anthropologiques, ce serait une interdiction de ces pratiques, bien entendu.
Mais est-ce qu'on en a les moyens d'interdire ?
Oui, je ne suis pas sûre. Par ailleurs, je pense qu'il y a toujours une période d'acculturation de très grands changements et qu'il faut également la vivre, même si on pense à un encadrement. Donc, si on ne va pas directement vers l'interdiction, il y a, à mon sens, deux directions possibles. La première, qui serait très libérale et très individualiste, ce serait de laisser aux personnes vivantes le choix de décider ce qu'elles souhaitent comme utilisation de leurs données, si elles veulent être concrètement prolongées ou non. Donc, sur le fondement du consentement, on aurait cette décision, et c'est ce que proposait...
Un peu sur le mode du testament de vie.
C'est ça. Alors, on a déjà, précisément, je faisais allusion à la loi française Informatique et Liberté, qui a été réformée dans ce sens en 2016, c'est qu'on a déjà dans la loi française, alors, qui ne s'adapte pas très bien à cette hypothèse, mais on a déjà une possibilité d'avoir des directives, ce que personne n'utilise concrètement, mais des directives soit générales, soit particulières, sur ce que l'on souhaite que ces données deviennent après sa mort, en termes de communication, d'effacement, par exemple. Donc on aurait cette direction, qui a été d'ailleurs précisée par le Comité National Pilote d'Éthique du Numérique, qui est un organe qui est à côté, qui est au sein du Comité Consultatif National d'Éthique, donc c'est une vraie question éthique quand même qu'on est en train de se poser, et qui proposait précisément précisément que la personne vivante puisse définir si elle souhaite un avatar, quel serait son nom, quels seraient les contextes.
Elle pourrait changer de nom.
En tout cas, nommer son avatar, quels seraient les contextes qu'elle accepterait de présence de son avatar, parce qu'on parle aussi de présence professionnelle. Hein. Il y a des prolongations pour des raisons professionnelles. Par exemple, à Toronto, un chercheur travaille pour prolonger un de ses amis qui est dirigeant d'entreprise et parce qu'il estime que c'est le meilleur dirigeant possible pour cette entreprise et il essaye de créer une prolongation.
Il pourrait donc signer des actes juridiques, bancaires, etc.
Là, on irait très loin puisqu'il faudrait une personnification, mais il continuerait à peser sur les décisions de la société. Donc là, on aurait vraiment une définition par la personne du contexte de son avatar, de son nom, de ses langages, de ce qu'elle accepte comme durée, par exemple. Et là, ce serait vraiment une solution individuelle. Ouais. Il y a une autre solution.
Alors, avant d'aller à cette solution, je voudrais faire réagir Fanny Georges sur cette réalité, parce que on voit bien qu'on se rapproche à la fois de possibilités qui sont envisageables, en même temps que d'une illusion. Parce que où serait la volonté du dirigeant d'entreprise post-mortem ?
Oui, tout à fait. Donc, d'une part, sur la question de laisser le choix à l'utilisateur relativement, effectivement, à le devenir de ces données post-mortem, on avait fait diffuser un questionnaire. Donc, c'était Hélène Bourdelois sur le projet Éternité numérique il y a quelques années, qui avait produit ce questionnaire et la réponse des personnes était assez intéressante. C'est que, en fait, il y avait une différence entre le traitement que l'on donne en fait aux données de ses proches et puis le traitement que l'on consent relativement à ses propres données. En fait, les personnes ne souhaitaient pas, en grande majorité, que leurs données perdurent après leur décès. Enfin, souhaitaient plutôt supprimer ces données, alors que ces mêmes personnes produisaient des hommages, justement post-mortem, exprimaient leurs souvenirs sur la personne, le profil
mais
de leur proche.
On comprend bien. Je comprends bien, Fanny Georges, parce que c'est terrible. J'imagine mes enfants ou mes proches fouiller l'ensemble de mes mails, de mes conversations, des textos. C'est absolument terrible parce que les rapports entre parents et enfants, notamment, il y a une part qui doit rester secrète. C'est le syndrome de la chambre des parents.
Effectivement, et dans les entretiens que j'ai pu conduire, je me suis aperçue qu'il y avait, en fait, que ces contenants de données personnelles, en fait, notamment les ordinateurs personnels des personnes décédées, deviennent une tentation irrésistible, notamment pour les parents des personnes décédées, des enfants, qui ne peuvent s'empêcher d'aller consulter ces données.
Parce qu'ils ne comprennent pas souvent, on ne peut pas comprendre la mort, mort c'est l'inconnaissable.
Les conjoints, les parents, toutes les personnes qui ont accès à ces supports, ou bien le téléphone également, ne peuvent s'empêcher de le conserver, et effectivement, on peut se demander, ça ne donne pas lieu, alors je ne suis pas psychologue, mais à une intensification de la possibilité de deuil pathologique. Donc ça, effectivement, c'est un aspect. Alors peut-être sur la question de faire des actions au chatbot défunt, moi j'avais analysé un brevet de Microsoft qui a été validé en 2021, et ce qui était proposé, donc, c'était de créer des avatars qui puissent être consultés à tous les âges de la vie, et notamment des avatars qui étaient associés à des applications Word, Excel, etc. Donc en fait qui pourraient produire encore du travail après leur décès. Donc ça, pour le droit, ça pose un énorme nombre
de
questions. Alors,
je me retourne vers la professeure de droit, Judith Rocheveld. Ça pose une énorme question de savoir, est-ce qu'il peut y avoir une création quelconque post-mortem ? Et avant... Oui, vous voyez la question. Et avant de ça, je voulais un mot sur la protection de toute sa production, de toute la production d'une personne. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'associer le fait de fouiller l'intimité numérique d'une personne à un immense aveu involontaire, quoi. C'est-à-dire que c'est toute une vie qui s'avoue quand on a l'intime.
Oui, oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs une affaire qui a été importante en Allemagne, hein, où des parents d'une adolescente décédée, une adolescente de 15 ans, ont demandé précisément, pour connaître son état psychologique, savoir si c'était un suicide ou pas, ont demandé l'accès à tous ces contenus de réseaux sociaux, et toute la discussion a eu lieu sur le secret des correspondances. Alors, il y a eu... à la fin des fins, une décision sur le secret de cette correspondance. Donc c'est pour ça que...
Dans quel sens c'était la décision, pardonnez-moi?
À la dernière, plutôt vers le secret.
Vers le secret, protéger finalement les secrets du défunt.
Voilà. Donc, mais c'est en discussion, enfin bien ça sûr, reste en discussion, sûr. Mais il me semble qu'on peut tout à fait aller vers cette valeur. C'est pour ça que c'est soit l'interdiction, soit le fait de remettre les clés de cette prolongation à la personne elle-même, ce que j'entends tout à fait ne font pas actuellement du tout les vivants, alors même que la loi française, de façon tout à fait embryonnaire, permet de laisser des directives, mais envisager sa mort, c'est quand même très compliqué, et notamment pour des personnes bien sûr jeunes, donc ça ne fonctionne pas du tout comme possibilité. Et donc la dernière direction envisageable, c'est vraiment une gestion ou un régime social de la mort, c'est-à-dire une définition d'une possibilité transitionnelle d'avoir un avatar pour que les personnes vivantes puissent faire un deuil, par exemple, mais d'organiser l'oubli du mort. Et là, on a l'exemple japonais qui est très intéressant. On a des robots humanoïdes avec des masques de défunts et qui... sont conçus by design pour 49 jours et
que le deuil traditionnel,
le temps du deuil traditionnel japonais et disparaissent par la suite. Et là, on a une organisation sociale du temps de l'oubli et du deuil. Donc c'est tout à fait différent de la première direction qui est tout à fait individualiste, mais qui ne reposerait pas. Et ça, c'est effectivement l'un des défauts de la cuirasse de la loi française, qui ne reposerait pas sur les héritiers. Parce que ce que vous dénoncez, effectivement, comme possibilité d'atteinte aux intimités diverses des personnes qui sont mortes, c'est l'une des très grandes problématiques.
Et puis, ça peut être terrible, parce que ça peut détruire l'image qu'on avait. C'est un véritable problème de l'image qu'on découvre après la mort grâce à ces données numériques. Fanny Zorge, hein, vous pouvez en dire un mot.
Et effectivement, on a pu observer sur les réseaux sociaux numériques que d'une part, déjà que les personnes découvraient souvent des informations sur le proche, ne serait-ce que par les commentaires publics qui sont laissés sur les réseaux sociaux numériques. Donc, découvraient une facette souvent insoupçonnée de la personne, de son vivant, ne serait-ce que par effectivement la découverte qu'elle fréquentait certains milieux sociaux,
des personnes... Ou certains sites.
Oui, certains sites, exactement. Notamment, en fait, toute la question des publications automatisées, en fait, que le vivant, en fait, supprime systématiquement de son profil et qui apparaissent après
alors,
le décès.
C'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est quand même l'hymne de l'oraison funèbre, c'est le troisième genre de la rhétorique d'Aristote. C'est quelque chose de fondamental dans les vies humaines, de pouvoir faire l'éloge public ou en famille d'un défunt. Et donc ça veut dire qu'il y a une identité narrative d'ailleurs qui n'est véritablement accomplie qu'à la mort, une fois que le point final a été mis à une vie. Et là on voit à quel point ce récit est fracturé, et non seulement fracturé, mais il est plein d'indices qui bouleversent totalement la considération, la représentation qu'on se faisait du défunt.
Effectivement, ce dont on s'est aperçu, c'est que les personnes, pour créer cette narration après le décès, en fait, vont scroller la page de profil des défunts. Et parfois, on s'en est aperçu parce qu'effectivement, parfois, les personnes publient des commentaires sur des selfies en particulier qui ont été publiées plusieurs années avant le décès. Donc, il y a effectivement une remémoration, une pratique de méditation. Sur le défunt qui se produit sur la page de profil, et ça n'est pas forcément ce qu'on souhaiterait pour soi-même.
Bien sûr. Et voilà. Est-ce que le droit organise quelque chose comme le respect de la mémoire, la protection de la mémoire, Judith Rochefeld?
Alors, il intervient au moins deux dimensions, c'est-à-dire qu'on a d'abord une protection du corps mort, du cadavre, qui est importante, à qui l'on doit respect.
Y compris sur le numérique.
Ah non, pas sur le numérique, c'est sur la mort, donc sur le corps mort, alors même que la personnalité normalement a disparu, la personnalité juridique.
Mais si on divulgue par exemple des photos du cadavre.
Alors là, c'est l'autre dimension, et on a eu à l'affronter par exemple pour l'affaire des photos du président Mitterrand sur son lit de mort, ou du préfet Erignac assassiné. On a eu une difficulté en droit à traiter cette question, précisément parce que la personne étant morte, elle n'avait plus les droits au respect de sa vie privée, au respect de l'image. Donc, c'est passé beaucoup par le respect dû au sentiment des proches, à la mémoire.
C'est ça. On protège les vivants.
On protège la personne résiduelle, donc des bribes de personnalité résiduelle, que ce soit le corps mort ou que ce soit l'image d'une personne décédée. On protège l'idée de dignité humaine collective, le fait de ne pas exposer des personnes dans des situations même mortes,
déshonorantes,
qui soient attentatoires à leur dignité. On protège le sentiment de mémoire des proches, de deuil, mais c'est très difficile, précisément parce que la personnalité juridique qui associe ces idées de droit au respect de la protection de la vie privée, à l'image, au respect de la dignité, n'est plus là pour soutenir cette protection.
Il n'y a plus que des bribes, on pourrait dire. Il y a ce statut juridique, je parle là à découvert, sans filet, un statut juridique, des bribes de personnalité, Judith Rochefeld.
C'est pour ça qu'on peut appeler ça, effectivement, des bribes de personnalité ou de la personnalité résiduelle qui passe aussi, c'est pour ça qu'on peut ajouter en général compassionnel, qui passe aussi par la protection des sentiments des personnes proches vivantes.
Ça vous parle, vous, Fanny Georges ?
Effectivement, parce que donc là, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des profils de défunts, c'est-à-dire de personnes vivantes, sont décédés, mais également il y a les pages d'hommage donc créées sur des sites spécialisés comme Paradis Blanc ou d'autres sites. Donc
il y a des codes aussi, requiescat in pace, c'est une sorte de code qui fonctionne sur Internet, qui reprend d'ailleurs une formule tout à fait traditionnelle.
Oui, tout à fait. Alors ça c'est très couramment publié sur les réseaux sociaux numériques, tout comme sur les pages d'hommage de défunts, mais effectivement, ces pages d'hommage créées donc après le décès de la personne et qui sont distinctes du profil de l'utilisateur correspondent plus à une narration homogène. C'est-à-dire sur Facebook, en
constituée.
Fait, des personnes vont créer parfois même plusieurs pages d'hommage lorsque l'image conservée par les personnes, donc des défunts, ne correspondent pas. Et on a observé des querelles de mémoire entre plusieurs pages pour un même défunt. Fin, effectivement,
bien sûr.
Certaines personnes interdisant d'autres de publier sur leur page, donc les autres voulant rendre hommage, créant une autre page, donc effectivement...
Il n'y a plus les rituels pour arbitrer entre ces récits concurrents.
Voilà, tout à fait.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thank you.
20,000 people, Crosbers and Booker. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know, you know.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Guérapon.
As long as there's sun. As long as there's rain.
Esprit de Justice qui continue cette réflexion assez vertigineuse, les auditeurs l'auront compris, sur la gestion numérique de la mort, sur les avatars post-mortem. Mais en fait, ces avatars ne sont qu'une partie du problème, vous le comprenez bien. En compagnie de Fanny Georges, qui est sémiologue, et de Judith Rochefeld, qui est professeure de droit. Judith Rochefeld qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de David Bowie, « Where are we now ?» J'ai envie de vous retourner à la question, Judith Rochefeld.
Oui, alors le titre, c'est ça, le titre est assez parlant. D'abord, c'était un revenant quand cette chanson est parue en 2013, puisqu'on ne l'avait pas vu depuis un certain temps, David Bowie. Et par ailleurs, c'est une chanson où il décrit le fait qu'il est perdu dans le temps et au milieu des morts. Donc ça me semblait quand même assez adapté à notre sujet, de ne plus savoir tellement comment se positionner par rapport aux morts. Voilà.
Mais justement, le rôle du droit, quoi, c'est, je parle sous votre contrôle, vous qui êtes une éminente juriste, le rôle du droit, c'est précisément de structurer le réel aussi, et de structurer ses rapports autour de la mort, dont on voit que le numérique découvre des problèmes extrêmement importants. Et vous disiez que le droit était en quoi ? La réflexion juridique était en cours d'élaboration, mais je voudrais que vous développiez un peu la formule que vous avez employée, Judith Rochefeld, sur une personne résiduelle compassionnelle. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ?
L'idée la suivante, c'est que, comme on l'a évoqué, c'est... la situation, je dirais, a peut-être affronté, et qui est déjà quand même en cours dans les pratiques, c'est l'acculturation de présence numérique, de personnes décédées.
De présence ou d'effet de présence ?
D'effet de présence, si vous le souhaitez, qui, de plus, peuvent subir diverses atteintes. Hein. On n'a pas évoqué, par exemple, des situations où la personne décédée serait injuriée, où son avatar serait agressé. Situations auxquelles on réfléchit déjà pour des avatars de personnes vivantes, mais qui se posent avec des questions mémorielles pour les personnes décédées. Donc, on a cette acculturation de présence tout à fait spéciale. Et bien sûr, la question que se pose le droit en face de situations de présence avec des réflexions en termes de protection, par exemple, c'est de savoir s'il faut octroyer la personnalité juridique, c'est-à-dire les droits au respect de la vie privée, droits contre les atteintes, droits
à la dignité,
à l'image, enfin, ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est un réflexe assez classique du droit, puisque la personnalité juridique entraîne précisément le bénéfice de ces droits.
Et c'est une construction, c'est très profond d'ailleurs, c'est parce que en fait l'idée de personne, c'est l'idée de, comme on le sait, les masques du foyer dans lequel on était, qui signalait l'appartenance à une gens, l'appartenance à un foyer, à une famille particulière. Ça veut dire que dans le fond, la personne est déjà la notion de personne en Occident est déjà liée à une représentation protégée par le droit.
Oui, il y a une représentation, il y a des fonctions de reconnaissance en tant que sujet de bénéfice de droit. Donc la question qui se pose assez, je dirais, naturellement, même si ce n'est pas le bon terme, c'est de savoir comment on va accompagner ces présences numériques, quelles qu'elles soient, pour leur donner une sorte de statut en droit. Et Il y a déjà des propositions, notamment états-uniennes, hein, sur l'octroi de la personnalité, l'octroi de la personnalité aux intelligences artificielles ou l'octroi de la personnalité à des avatars, ce qui a plutôt pour l'heure été repoussé au niveau européen.
Oui, c'est ça. Ben, on va y revenir sur l'octroi d'une personnalité, mais on ne sait pas s'il y a des statuts, mais il y a une réalité sociale dans la pratique des gens, Fanny Georges.
Oui, tout à fait. Donc les personnes vont construisent leur identité en ligne, et de plus en plus avec le processus d'acculturation au numérique, cette identité est considérée comme primant presque sur la personnalité et les interactions en face à face, c'est-à-dire en fait
corporelle.
Voilà, en particulier les influenceurs, toutes les personnes qui cherchent à se professionnaliser en ligne vont considérer que leur réel, en fait, leur expérience quotidienne, finalement, est subordonnée à sa mise en visibilité
dans les réseaux sociaux numériques. C'est une inversion totale par rapport à l'idée de délégation qui était le fondement même de l'existence sur les réseaux sociaux numériques, Fanny Georges.
Voilà, tout à fait. Et on voit en cela qu'il y a actuellement vraiment différentes cultures relatives à ces personnalités numériques, et que finalement, tenter d'homogénéiser, même en droit, effectivement, ces relations individuelles et subjectives, et concrètement, une mission impossible, oui, puisqu'on a vraiment différentes cultures actuellement qui coexistent relativement assez pratiquement.
Alors, différentes cultures, et donc une sorte de brèche, j'ose pas le dire en anglais, mais de brèche, d'écart entre les pratiques et la réalité. Et donc, je parle sous votre contrôle, Fanny Georges, mais dans le fond, il y a cette croyance collective dans une personnalité qui ne serait plus un corps. Le cyborg, l'avatar, c'est ça finalement ce qui se passe. Et est-ce que le droit doit embrayer, Judith Rochefeld? Est-ce que le droit doit marcher dans cette croyance collective?
Alors, c'est intéressant comme analogie, parce que certains chercheurs, hein, comme Dominique Boulier par exemple, parlent d'habitel,
oui,
parlent de corps de données.
Donc, on a même. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'habitel de Dominique Boulier? C'est intéressant.
Bah, si on simplifie, hein, oui, c'est vraiment l'idée que on aurait actuellement une autre version, une version du corps qui serait un corps de données, et que ce serait une autre façon d'habiter sa personnalité ou de figurer sa personnalité, et l'avatar évidemment en est une. Donc ce qu'on a longtemps associé à la personne comme son pilier central, le corps, serait transposable.
Ce que je trouve intéressant dans cette idée d'habitel de Dominique Boulier, c'est que il y a une inversion, c'est-à-dire que c'est plus nous qui habitons un corps, mais on habite une image qui est possédée par les autres. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idée de délégation à son avatar, qui était l'idée initiale, à une idée de domination par une entité abstraite, par la machine, par les réseaux sociaux.
Alors ça, c'est le point, à mon avis, tout à fait central, c'est-à-dire l'intervention d'une technique maîtrisée par d'autres, qui a des promesses de fidélité à une personne, soit vivante, soit passée.
Qui répond à une logique commerciale.
Qui répond en partie à une logique commerciale, et qui peut tromper le destinataire de l'interaction.
C'est ça.
Avertir sur ses promesses. Ça, c'est un peu le point nodal du numérique. C'est-à-dire qu'on a des promesses sur l'intelligence artificielle dont il faut bien comprendre le fonctionnement.
Est-ce que ce n'est pas précisément l'enjeu, c'est ce que j'ai lu dans vos écrits, Fanny Georges, c'est que finalement, cette question de la mort, alors elle est très importante, elle est très émouvante, parce que nous sommes tous appelés, malheureusement, à cesser de vivre un jour. Et en même temps, c'est l'épreuve de vérité du numérique. C'est dans ces promesses aussi extrême d'éternité, hein, un mot que vous aimez bien, qui est en même temps impossible, que le numérique va aussi montrer sa part d'illusion.
Alors, c'est impossible si on considère les pratiques actuelles. Effectivement, ce processus de construction de soi par les technologies numériques, donc effectivement que Dominique Boulier nomme Habitel, effectivement, ils peuvent aussi être considérés comme un corps de données. Moi, je l'appelais Exis numérique, c'est-à-dire, en fait, c'est la somme des traces que l'on laisse de soi, volontairement et involontairement, sa vie, et dont effectivement le processus d'acculturation assimile de plus en plus à l'image de soi. Et ce sur quoi jouent actuellement les plateformes donc de métavers notamment, donc c'est sur cette espèce de course à parvenir à produire un avatar le plus semblable à l'image que l'on se fait de soi, justement à l'exis corporel. C'est-à-dire vraiment à ce corps incarné qui porte la trace de notre identité et notamment en fait dans ce fameux brevet Microsoft que j'évoquais tout à l'heure, eh bien en fait il pèse une menace, c'est-à-dire qu'en fait toutes les personnes qui ne présenterait pas assez de données pour fournir un avatar présentant une identité, c'est-à-dire voilà différente des autres, eh bien serait calculé en fonction de données génériques. Donc on a un indice de personnalité générique.
C'est-à-dire
c'est un indice de personnalité qui est calculé à partir de la moyenne effectuée sur toutes les données des autres personnes corrélées à l'âge et effectivement.
Alors c'est encore un stade supplémentaire. Je lui dis Trochevel.
Alors, c'est un stade supplémentaire, mais c'était déjà impliqué dans les exemples qu'on a donnés. Par exemple, l'exemple de la fillette de 7 ans qui est en interaction, de l'avatar de cette fillette qui est en interaction avec sa mère, a été construit à la fois sur les photos de cette fillette, mais sur le comportement, les gestes, les paroles d'un échantillonnage d'enfants de 7 ans.
De comment se comporte un enfant de 7 ans.
Comporte normalement un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il peut avoir comme geste, qu'est-ce qu'il peut dire. Donc on a toujours dans ces calculs algorithmiques de comportement de personnes un aspect collectif, un aspect de construction par rapport
surtout
à une moyenne collective.
Et donc, puis cet enfant grandit en plus, donc elle avait 7 ans au moment de son décès, mais après, si on parle pendant 5 ans avec elle, elle en a 13 à la fin.
Oui, et on se comportera, l'avatar se comportera selon une moyenne des échantillonnages, un profilage d'enfants de 13 ans.
Donc c'est quand même un aspect normalisateur de conformation à des standards aux génériques qui posent question.
Pour le moins, par ailleurs, il y aura des techniques différentes.
Voilà,
bien sûr,
je voudrais vous faire réagir en tant que juriste et que spécialiste du droit privé notamment, c'est qu'on voit en droit privé deux tendances qui coexistent et on les voit bien dans notre débat ce soir. C'est-à-dire, d'une part, le numérique, c'est l'objectivation extrême à une norme, le générique, et en même temps, c'est ce qui accorde le plus de poids à la volonté, aux relations sociales, à l'extrême subjectif. Ce qu'on voit en droit, par exemple, droit de la famille, le droit de choisir son sexe, le droit de déterminer son statut, où il y a de moins en moins cette dimension assignataire du droit, et de plus en plus une large place accordée à la volonté, au désir.
Là, c'est un choix. Dans les solutions de réglementation mises sur la table, comme on l'a fait tout à l'heure, il y a vraiment un choix entre des directions de tout consentement ou aussi d'oubli social à organiser. Donc, il y a un vrai choix. Par ailleurs, je dirais qu'un discours homogène, générique sur le numérique me paraît globalisant.
Non, mais là, en l'occurrence, sur le droit. C'était mon idée, c'était sur le droit.
Oui.
C'était de dire, par rapport au droit classique, j'allais dire, traditionnel, assignataire, avec des statuts, avec des dévolutions de statuts, de patrimoine, etc. Aujourd'hui, on a ces deux tendances qui coexistent.
On a ces deux tendances et on a aussi la difficulté qui est de s'habituer à des pratiques qui sont déjà en cours et qui bousculent quand même, comme on l'a vu, et la notion de personnalité, et la notion de décès, et la notion de données, donc
de traces.
Voilà. Donc on a beaucoup de choses à digérer pour arriver
et c'est aussi
régir la situation.
C'est là où le travail du sémiologue est extrêmement important, Fanny Georges, parce que le sémiologue, c'est celui qui, à partir de votre distinction, notamment des icônes, des traces, des signes, qui reconstitue, qui donne un début de cohérence aux pratiques sociales.
Alors, c'est toute l'ambiguïté du rôle du sémiologue, parce qu'en même temps, effectivement, on va observer, moi j'ai beaucoup observé des usages émergents qui m'ont permis effectivement de théoriser des éléments sur l'identité numérique, effectivement la mort numérique, éternité numérique, mais en même temps, c'est vrai qu'en parlant publiquement, en réalité, on normalise, on participe de la normalisation de ce phénomène, lorsqu'on norme, enfin, en fait, ce qu'on parle de chatbot, de défunt, ces problématiques de création d'un avatar conforme effectivement à l'image de soi, à l'exis corporel, finalement, on avertit aussi les utilisateurs sur les dangers dans le futur du non-usage de ces dispositifs. Et on peut se poser la question, effectivement, de notre rôle dans la normalisation de ces pratiques.
Alors, ce qui est bien, c'est que le juriste, il assume son rôle normalisateur, parce que c'est le cœur du droit. Alors, on est passé un peu vite sur la personnalité juridique accordée aux robots, aux avatars, qui pose comme problème, quoi, qui me pose problème, moi, en tant que juriste, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité qui ne répond pas, qui n'a pas de responsabilité ? Une personnalité sans responsabilité, c'est le même problème que pour les animaux. Parce que le droit repose sur un équilibre profond, justement, de liberté et de contrainte, de personnalité et de responsabilité.
Alors c'est intéressant parce que pour l'heure, la seule évocation en Europe d'une personnalité pour les intelligences artificielles, donc pas spécialement pour les avatars, mais pour les intelligences artificielles, cette évocation l'a été en 2017 par le Parlement européen pour des intelligences artificielles sophistiquées autonomes, les véhicules autonomes par exemple, ils seront vraiment autonomes et intelligents.
Il n'y a pas que les véhicules.
Oui, mais voilà, c'était l'exemple pris de la fameuse voiture qui cause un accident, et c'était pour des questions de responsabilité. On lui aurait associé un patrimoine de responsabilité pour qu'elle puisse répondre des préjudices, des dommages qu'elle pouvait causer. Donc il y avait une question de responsabilité à l'origine. Ça a été pour l'heure rejeté, hein. En 2020, le Parlement européen a fait machine arrière parce qu'on n'est pas à ce niveau de sophistication et que ça a beaucoup, évidemment, choqué.
Il y a le petit véhicule et le grand véhicule, si je puis exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même les personnes humaines. Et quelle est votre position, vous ? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin sur l'ordre, sur la possibilité pour le droit de conférer une personnalité juridique à quelqu'un qui n'est pas un corps humain parlant et
alors,
vivant,
donc
mourant ?
Alors, on a des personnes juridiques qui ne sont pas des corps. On a toutes les personnes morales,
bien sûr,
les sociétés commerciales, les associations. Donc, au-delà de la personne humaine qui a évidemment sa spécificité, on a une fonction de la personne juridique qui dépasse la personne humaine. Donc, le droit sait faire ça. Le veut-il pour des personnes qui n'ont pas de corps ? Pour l'heure, le réflexe que moi j'entrevois ou que j'anticipe, c'est effectivement d'aller vers des bribes de personnalité par respect des personnes vivantes, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça, dont la référence serait toujours le vivant, les personnes vivantes.
Pour l'heure, le droit réagit comme ça, c'est l'exemple, en fait, le parallèle que je fais, c'est plutôt avec les enfants nés sans vie, qui n'ont pas de personnalité juridique, puisqu'il faut naître vivant et viable, mais qui ont acquis au fil du temps, par respect du sentiment de deuil des parents...
Une présence dans l'état civil.
Une présence dans l'état civil, un nom, leur date de naissance, le lieu de naissance, les parents. Donc on a des bribes de personnalité de cet enfant né sans vie.
On retrouve le compassionnel, entre parenthèses.
On retrouve le compassionnel. Donc, pour l'instant, je dirais que ces bribes de personnalité, et le parallèle avec le DSM semble possible, on retrouve ces bribes de personnalité par respect des personnes vivantes.
Alors, on peut se poser la question, et je me borne à la poser, vous n'aurez pas le temps d'y répondre, malheureusement, mais derrière ça, il y a quand même des entreprises du numérique, il y a aussi des concepteurs. entrepreneurs, il y a aussi des ingénieurs, il y a des start-up, il y a de la valorisation boursière, il y a beaucoup de choses. Bref, merci beaucoup Fanny Georges, merci beaucoup Judith Rochefeld pour cette passionnante discussion qui aura montré aux auditeurs toute l'étendue de ce qui est devant nous. Esprit de justice, c'est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Élise Le, que je remercie particulièrement. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Sandrine Chaperon. C'est une émission d'Antoine Garapon.